lire des visages de l'Algérie, traverser ses couleurs, raconter ses légendes, ses dents, des villes et des histoires. Des villes et des histoires, une émission produite par Malika Lafer, réalisée par Saïd Boutelfa.
D'un moutonnement de dunes, les coupoles et les voûtes blanches d'Al-Oued semblent redessiner l'ergue. Des milliers de petits dômes répondent aux cuvettes qui entourent la ville. Al-Oued, la ville aux mille coupoles, aux mille poètes, ainsi que l'avait fort justement nommée Isabelle Eberhardt, cette aventurière romancière, convertie à l'islam, qui séjourna dans la région à la fin du siècle dernier. Le centre de la cité, le rendez-vous des soifas, place du marché qui connaît une grande animation. Chaque matin, dont nous nous sommes rendus quelquefois, le plastique et l'acrylique a malheureusement évincé l'artisanat d'antan. Sur cette place et dans des rues adjacentes bordées des shops, on vend pêle-mêle des gandouras, des bournous, des afens, chaussons en poils de chèvre destinés à la marche dans les sables. Au nord d'Al-Oued, un circuit d'une cinquantaine de kilomètres offre un bon panorama du Souf, un des plus vieux villages Egmar. Egmar, la vie religieuse et littéraire y est ardente. Elle fournit au mouvement réformiste ses meilleurs poètes et orateurs sacrés. Elle est la réserve inépuisable des chairs de ses deux plus grandes confréries, la Qadiriyya et la Tijaniyya, qui essaiment à travers toute l'Afrique. On dit qu'elle fut la première ville intellectuelle orientale du Sahara. Egmar est connue également pour sa fidélité aux préceptes sacrés de l'hospitalité. Elle a donc connu beaucoup de gloire, de division et de lutte intestine, et pour cela que les anciens du pays sont très jaloux de leur ville et très vigilants sur tout ce qui la concerne. La cité d'Egmar est une ville qui a gardé son cachet ancestral. Construite de façon harmonieuse, elle dispose de plusieurs ruelles ombragées pour les journées chaudes de l'été. Cette vieille ville est construite dans la tradition des villes du Souf. L'implantation des Zaouïades dans la région d'Al-Oued remonte à plusieurs siècles. L'apparition des Tourouks, singulier Tariqa, l'initiation a fortement influencé la population. Trois Zaouïades se partagent l'espace d'Al-Oued, la Zaouïa Qadiriyya, la Rahmaniyya et la Tijaniyya. Sidi Ahmed al-Tijani, Sidi Abd al-Qadir al-Jilani et Sidi Cheikh al-Azouzi, ils ont été des pères spirituels et les créateurs de cet ordre religieux qui a une influence partout dans le monde. On écoute M. Nadir Tijani, Muqaddam de la Zaouïa Tijaniyya Agmar. Monsieur Ahmed Laroussi Tijani, merci donc de nous recevoir chez vous. Vous êtes Mokdem donc de la Zaouïa Tijaniyya ici à Agmar. Agmar qui se trouve à 12 km du chef-lieu, donc de la wilaya d'Al-Oued. Est-ce que Agmar a une particularité? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cette daïra? Existe-t-elle avant Al-Oued ou alors après?
Alors, soyez bienvenus à la Zaouïa Tijaniyya de Guémar. Guémar donc est une cité... Le moins qu'on puisse dire, elle est séculaire. s'il n'est pas millénaire, parce que les études sociologiques sont vraiment très réduites sur cette cité. Mais oralement, on dit que c'est une cité très ancienne qui peut avoir des origines berbères. Le mot de Guémar voudrait dire coude tournant, entre autres. Et c'est le rôle des sociologues de faire des études très spécialisées pour déterminer l'histoire de la ville exacte. Elle a été habitée par une population qui s'est distinguée par son aspect intellectuel. C'est une ville intellectuelle. Beaucoup d'enseignants célèbres sont apparus justement ici à Guémar. Ne serait-ce que dans l'histoire de l'étudiant, nous avons Sidi El-Akhdar Humana, qui a été cadi et qui était enseignant notoire ici à la Zawiya de Guémar. C'est le Hajj Ali Belkayem qui était aussi un guémarien. Son petit-fils actuellement est un imam à Médine, c'est le meilleur des imams de Médine. C'est Ahmed Dourmaz. Il y a beaucoup de noms, disons récents, c'est-à-dire dans le siècle passé, qui ont émergé et qui illustrent cette prédisposition de Guémar d'être la ville intellectuelle de la région du Souf.
On sait qu'il y a eu un brassage justement dans cette région, mais Guémar est toujours resté berbère. Est-ce qu'on y parle encore?
Pas à ma connaissance. Actuellement, Guémar est pratiquement arabisé de par ses aspects extérieurs, le parler. Ma foi, je ne suis pas un spécialiste dans l'ethnologie, et Annie, pour vous répondre exactement sur ce point-là.
Bien sûr, Monsieur Ahmed Larousi Tijani, vous êtes Mokaddem donc de la Zawiya Tijaniya. Un petit bref historique de Sidi Ahmed Tijani, qui créa donc la Zawiya Tijaniya.
Exactement, c'est en 1788 qu'il a ordonné aux premiers habitants de la région du Souf à avoir... à s'être affilié à la Tijaniya. Il s'appelait Sidi Mohamed Siassi. Il était enseignant du Coran. Il l'a rencontré à la ville de Larouate. Il a eu un entretien avec Ahmed Tijani et il a fini par lui demander l'affiliation à la Tijaniya. Suite à cela, il lui a ordonné de revenir dans sa région natale pour la diffusion de la Tijaniya. Et dans cet objectif, il l'a habilité en lui délivrant une ijaza, c'est-à-dire une habilitation à initier tous ceux parmi les musulmans qui veulent adhérer et à s'affilier à la Tijaniya. Ahmed Tijani, c'est son parcours d'investigation, de quête de la science, de la gnose, comme on dit ésotérique. Ces pérégrinations ont eu lieu avant qu'il devienne cheikh de la Tariqa Tijaniya, avant qu'il fonde la Tijaniya en 1781-82. Tout jeune, à 20 ans, il a quitté sa cité natale de Ain Madi pour aller en quête du savoir, comme on dit. Il a pratiquement sillonné le nord de l'Afrique, dans les pays voisins. Il a été au Maroc, il a été en Tunisie. Et finalement, il a fait un pèlerinage à la Mecque en 1773. Il a rencontré de grandes figures du savoir de l'islam de l'époque. Par exemple, le Sidi Azhari al-Qishtoli, Ibn Abd al-Rahman. Il a visité dans le Djurjura. Il l'a initié dans la tariqa Khaloutiya. Et suite à ça, il a rencontré un autre insommité de la Khaloutiya également, Sidi Mahmoud al-Kurdi, dont le cheikh Cheikh al-Hafnaoui est le même cheikh de Sidi Mohamed bin Abd al-Rahman. Mohamed bin Abd al-Rahman al-Azhari Qajtouli, le Jarjouri. Il est enterré à Sidi Mohamed à Alger. Il s'appelle Boukbrin. Il a été transféré lui aussi par les Turcs à Sidi Mohamed à Alger. Il avait une dimension internationale, si on veut dire, pan-islamique. Il a côtoyé les plus grands penseurs et maîtres de la spiritualité et du savoir de son époque. Et chaque fois qu'il entendait prononcer un nom d'une sommité intellectuelle ou une grande personnalité dans le spiritualisme, il n'hésitait pas à faire des centaines de kilomètres pour aller la visiter et recueillir ce qu'il pouvait recueillir comme savoir et comme sagesse.
I'm
Alors, il est aujourd'hui enterré à Fès.
Oui, il est enterré à Fès. Né en 1737 à Ain Mahdi, à la cité de Ain Mahdi, au milieu de ses oncles les Banu Toujin, c'est une tribu berbère qui habitait l'Oxar de Ain Mahdi. Il a donc étudié sur place à Ain Mahdi pendant 15 ans. Et à 15 ans, il est devenu mufti de la cité. Et il s'est marié une année après. Ses parents l'ont marié. Et puis, ils sont décédés suite à une épidémie de peste. Il est resté à Ain Mahdi enseigné pendant 4 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Et il faisait l'ifta. Donc il atteint le stade de maturité en matière juridique. Mm-hmm. Les gens venaient le consulter, ils venaient donner des consultations juridiques pour les gens qui voulaient apprendre les choses.
Donc, il a un peu suscité la curiosité et la fascination. Aussi jeune, il enseignait et les gens venaient vers lui.
Absolument. Et il était donc il a appris le Coran à 7 ans. À 15 ans, il a fini ses études qui étaient enseignées à Ain Mahdi. Et Ain Mahdi était célèbre pour la qualité de l'enseignement qui s'y faisait à son époque. Et après avoir donné lui-même en retour un enseignement pendant 4 ans, il était toujours assoiffé de connaissances et de savoir. Il est allé chercher ce savoir et ses connaissances sous les horizons qui lui apparaissaient contenir. À l'époque, c'était le Maroc était plus célèbre. Vous savez qu'au Maroc, il y avait l'université, la première dans l'islam, de la Qaraouine, qui a été fondée par des gens de Qaraouine, de Tunisie, une colonie qui vivait au Maroc. Et beaucoup sont venus là-bas, ils ont signé là-bas. Il a pris donc le temps d'apprendre d'abord. D'apprendre. Il a visité beaucoup d'hommes saints, célèbres pour leur connaissance et leur savoir, dont Aboul Hassan Al-Wanjali, qui lui a prédit un grand avenir et lui a dit « Tu vas atteindre le stade de Cheikh Chedli, Aboul Hassan Chedli. Mm-hmm. » Et que Aboul Hassan Chedli, c'est un saint maghrébin. Il est né au Maroc, il s'est fait manifester en Tunisie et il est mort sur la route du pèlerinage qui dit en Égypte ou au Soudan, sur la route de la Mecque. Et il est célèbre et beaucoup de Tidjani, d'Algériens dans le temps et jusqu'à maintenant certains sont Chadili, de confrérie Chadili, avec ses différentes dérivations. Dans les Alaouis, dans les...
Pour la connaissance, Sidi Ahmed Tijani, comme vous venez de le dire, il a beaucoup voyagé et donc il a beaucoup appris. Ensuite, il a enseigné, on verra tout à l'heure, à l'université Al-Qaraouine au Maroc. Il a été traqué par l'Empire ottoman, pourquoi ?
Écoutez, il a été traqué quand il est devenu cheikh de Zawiya, quand il a fondé une nouvelle confrérie. Donc pour accéder à ce statut-là, ça veut dire que le personnage a atteint une dimension hors pair. Donc il est devenu un centre d'attraction, d'intérêt, de controverse, de tout. Donc il est sur toutes les langues, tout le monde en parle. Quelqu'un qui vient, qui déclare qu'il a une vision du prophète, qui lui a ordonné de fondre une nouvelle confrérie, une nouvelle voie spirituelle. Ce n'est pas chose habituelle et normale. Et les Turcs, ottomans de l'époque, ont été effrayés. Et surtout avec le temps, son aura grandissait. Les gens affluaient de toutes parts à Boussemroun. L'Oxar de Boussemroun s'est révélé. Et devant cette tendance donc de croissance de sa popularité et de son influence, ils ont eu peur qu'ils craignent un pouvoir parallèle ou un pouvoir qui les inquiéterait dans le sud, d'autant plus que le pouvoir turc ottoman de l'époque était centralisé au nord, dans les grandes cités Alger, Oran, Médéa et Constantine. Et le reste du pays était abandonné lui-même. Il venait juste prélever l'impôt une fois par an et puis ça s'est réduisait à ça. Hein. Et tandis que Cheikh Sami Tijani, d'autant plus qu'il était bien enraciné dans la région. revenu du Maroc ou de l'âge de 20 ans à 25 ans et qu'il a passé au Maroc, il est revenu passer 5 années à la Zaouïa du Oulé Sidi Cheikh, à l'Abbé Sidi Cheikh exactement. Il a passé 5 ans là-bas, dans cette grande tribu qui occupait tout le sud algérien, sud-ouest, dans la wilaya de Baïa, de Jiriville dans le temps, et ça va jusqu'à la frontière marocaine, leur terrain de parcours et d'influence. Et beaucoup de l'Oulé Sidi Cheikh ont adopté justement sa tariqa quand elle est apparue. Ils étaient partagés en deux grands clans, les Shiraga et les Graba. Ils ont dit que le clan Graba, ils se sont singularisés, sont rentrés tous dans la confrérie tidjaniya.
قدي ورجيعي أخ الحب إلى يخفى إلى رماكة يهتيك وجد في داخلي يطلع.
Alors, donc on a compris pourquoi. Lorsqu'il est arrivé au Maroc, son aura, sa personnalité, sa réputation, il a été accueilli tout de suite chez le roi du Maroc. Et on dit que c'est la première tariqa, la première confrérie qui a été enseignée au niveau de l'université.
En 1798, au début certainement, les Turcs ont sommé les habitants de Qsar de Boussomroun, où il a vécu pendant 17 ans en tant que fondateur de la Tijaniya, en tant que cheikh. Ils les ont sommés de l'expulser ou de le livrer au pouvoir d'Alger, ou bien il subirait les revers d'une attaque des forces turques. Alors, il a bien réfléchi à la situation, et il devait donc quitter les lieux et aller dans un lieu sûr où il ne sera pas remis aux Turcs d'Alger. Et à cette époque-là, le Maghreb était sous influence turque, aussi bien en Algérie qu'en Tunisie qu'en Libye. Il restait que le Maroc comme voie possible de repli. L'Égypte même était occupée par les Français de Napoléon en 1798. Et la seule voie qui lui est donc de sécurité pour son asile restait le Maroc. Il a envoyé deux émissaires au roi du Maroc pour demander l'autorisation d'émigrer là-bas. Les habitants de Boussomroun voulaient le suivre, il les a empêchés. Il a dit non, il n'est pas question, je ne vais pas, il va s'inquiéter le roi du Maroc, et puis vous n'avez pas abandonné vos terres, et c'est moi qui suis visé, ce n'est pas vous-même. Il les a convaincus de rester sur place, et il est parti au Maroc. Il est arrivé là-bas à faire en septembre 1798, et le roi du Maroc avait pour capitale Marrakech. Il n'était pas à Fès. Alors, il l'a soumis à des tests de savoir pour s'assurer de sa dimension d'homme de connaissance et de savoir. Il l'a soumis à des débats à l'université de Qaraouine. Et il a subi beaucoup d'investigations, de contradictions pour s'assurer que les ulama de Qaraouine s'assurent de ses connaissances. Ils ont fini par admettre sa suprématie, et à leur tête, Cheikh Tayyib Belkeran, qu'ils ont reconnu qu'il était vraiment un homme de sage et de connaissance et un véritable saint. Et il a été donc autorisé à rester au Maroc, habiter à Fès.
Ahmed Laroussi Tijani, il est mort en 1815 à Fès, après moult négociations, et les enfants sont revenus ici pour habiter à El Mahdi.
Oui, à sa mort, il a laissé deux garçons et une fille. Son fils aîné, Mohamed Lekbir, est né à Boussomroun, une année avant son immigration au Maroc, en 1797. Et le second, il est né à Fès, il est né en 1801, 4 années plus tard. Et ses enfants devenus pas vraiment adultes, yani, l'aîné, il avait 18 ans et le plus jeune, il avait 14 ans. Il ne voulait pas qu'il reste après sa mort à Fès ni au Maroc, pour des raisons qu'il n'a pas dit explicitement, mais qu'on peut comprendre. Il les a mariés à peine un mois avant son décès. parce que beaucoup de mokadem et d'hommes influents du Maroc lui ont proposé ses filles pour ses garçons. Et il a, avec souplesse, il a rejeté l'offre en disant que mes enfants vont vivre au Sahara et vos filles citadines ne peuvent pas les suivre. Donc il est préférable de ne pas créer de futurs conflits ou bien... Et mes enfants sont appelés à aller vivre au Sahara, là d'où ils sont venus. Et effectivement, il a laissé, comme dans son testament oral à son sikh spirituel, le Hadj Ali, lui a intimé comme ordre de reprendre ses enfants après sa mort et de les ramener en Algérie pour qu'ils vivent dans la terre de leur père.
Maintenant, on va parler des écrits. Est-ce qu'il y a un ouvrage seulement qu'il a laissé ? Est-ce qu'il a laissé d'autres écrits ?
Il n'a pas laissé un ouvrage, c'est-à-dire dans lequel il y a ses pensées et tout ça. Ce sont ses disciples qui ont retranscrit ses pensées et ses enseignements. Lui-même, ce qu'on a gardé de lui, il a créé beaucoup de lettres. Il y a peut-être une centaine de lettres qu'il a écrites tout azimut, dans plusieurs directions, plusieurs villes, à des personnages, à des groupes, à des cités, au roi du Maroc, aux habitants d'Ain Mahdi. Il a beaucoup écrit. Ses écrits sont préservés, beaucoup sont préservés. En Algérie, beaucoup sont retranscrits dans certains livres, dans certains ouvrages. Et donc, on peut connaître à travers ça ses enseignements. En évitant même les interprétations qu'ont écrit les disciples ou d'autres chercheurs. À travers ces lettres, on peut comprendre ses enseignements et sa vision des choses. Il a écrit Sharh, c'est-à-dire une explication d'une poésie de Al-Busayri, Cheikh Al-Busayri. Il a expliqué l'Hamaziyya Tao, il l'a expliqué. Il a aussi... Ça, c'est ce qu'on appelle sa production propre. Il a expliqué la Salat al-Fatihi, il a donné son explication. Expliqué dans la religion, comment comprendre. Il a expliqué aussi la perte de la perfection. Il en a fait une explication, c'est sa propre explication, elle est en 12 pages. Elle existe, elle a été éditée dans certains livres. Et ses disciples ont écrit des ouvrages, dans le maître ouvrage Jawahir al-Ma'ani, c'est-à-dire qui est contesté en partie ou bien par certains chercheurs, certains hommes de pensée et certains juristes. Mais toujours est-il qu'il y a une partie qu'on peut lui attribuer sans détour, ses propres écrits existent.
Il y a aujourd'hui, ces dernières années, une curiosité donc intellectuelle de chercheurs qui sont penchés sur... sur la vie et sur cette confrérie de la Tijaniya aux États-Unis, en France.
Oui, et il y a un groupe de chercheurs dont à leur tête M. Jean-Louis Triot de l'Université d'Aix-en-Provence, qui le premier s'est intéressé à la Tijaniya avec un groupe de sociologues qui étudie, d'après ce qu'il raconte dans le livre La Tijaniya, qui a pour titre la Tijaniya, une confrérie à la conquête de l'Afrique, qui a été dit en l'an 2000 à Paris, à Kartal, à Paris. Il dit qu'au départ, c'est une étude sociologique de la société de l'Afrique de l'Ouest. Et à travers leurs études, ils ont découvert que l'islam était dominant et c'était un islam de tendance soufie. ont bien étudié cet islam soufi, ils ont trouvé que c'est la Tidjania qui était dominante et qui restait active et qui avait donc suscité leur intérêt, d'où ils ont fait deux journées d'études à la bombe en 1994 à Aix-en-Provence. Beaucoup d'autres chercheurs européens et américains se sont intéressés à la question. Ils ont organisé du 1er au 5 avril 1996 cinq journées d'études à Allerton Center à l'Université de l'Illinois. Et suite à cela, ils ont une bonne dizaine ou douzaine de chercheurs ont écrit leurs études, qu'ils ont regroupées dans un livre dont j'ai donné le titre tout à l'heure, La Tidjania, une confrérie musulmane à la conquête de l'Afrique.
Alors, ça, c'est la phase d'intellectuel, justement, la recherche et la perception de la Tidjania par rapport à la société. Vous êtes aujourd'hui Ahmed El Haroussi Tidjani, vous êtes Mouqaddem, donc vous êtes Zawiya, de la première Zawiya qui est à Agmar. Comment va-t-elle? Est-ce qu'il y a un peu plus d'adeptes ou...
Plus d'adeptes, tout est relatif. Il me semble que dans le temps, la Tidjania était plus consistante que maintenant dans la société. Elle a subi les aléas de l'évolution de la Tidjania. Donc tout évolue vers le haut, vers le bas. Ça dépend de la courbe, elle monte, elle descend. Et c'est en fonction donc de l'attractivité de la chose, si elle répond aux attentes des gens, elle leur donne un réconfort moral, spirituel, elle leur ajoute un plus intellectuel, les gens ils vont s'y intéresser ou l'adopter. Et si vraiment il n'y a aucun intérêt, les gens ils vont la contourner. Donc c'est le message qui passe, qui ne passe pas. Il y a beaucoup de clichés qui se sont... déposé sur cette image de la confrérie, des confréries en général et de la Tidjania en particulier. Et donc, c'est maintenant, s'il y a une nouvelle approche, une nouvelle communication pour la faire connaître, peut-être qu'on aura gain d'intérêt. Il y a toujours des vieux dans la Tidjania ici, mais il y a beaucoup de jeunes actuellement à Guémar. Mais c'est pas... Ce n'est pas assez pour moi, c'est trop minoritaire.
Vous disiez qu'il y a des courants, la vie, il y a des changements. Si on vient vers la confrérie, c'est la recherche d'une spiritualité, d'une sagesse, d'un guide dans la vie.
Absolument. Les gens dans la vie, ils ont besoin, comme ils ont besoin de s'alimenter pour que leur corps vive et continue à vivre et être entretenu, ils ont la partie de l'âme, qui le vrai, c'est ce qu'il fait l'homme, c'est l'âme. Et l'âme doit s'alimenter aussi. Et elle a besoin donc d'une alimentation spirituelle et variée. Spirituelle, variée, intellectuelle, spirituelle, scientifique. Donc, il faut qu'il y ait une symbiose. Et il faut qu'une symbiose, il y ait un équilibre, un certain dosage, pour que l'homme trouve son équilibre dans la vie.
Il paraît qu'à Ouedsouf, il y a quelques milliers d'années, s'étendait sur ces mêmes lieux un paysage agréable, vert et giboyeux. Le paradis, du fait de la désertification, se transforma peu à peu en enfer. Les dunes sont venues, les arbres sont morts, le soleil a tout desséché. Mais l'homme est resté, il a remplacé les arbres fruitiers par les palmiers. Les chasseurs se sont transformés en éleveurs de chèvres, de moutons, puis finalement de chameaux. Monsieur Ali Abid, enseignant de profession, il a également exercé le journalisme. Le Simoun, qui est son premier roman, c'est une histoire d'abord humaine. Ce Simoun, ce vent violent, faisait rage, emplissait les dunes de vapeur où les hommes ont fini par s'y accommoder. On l'écoute. « Alors, nous sommes reçus chez Monsieur Ali Abid, qui est enseignant donc en retraite et aujourd'hui le rédacteur de l'édition Walid, pour parler de son roman, le Simoun. Le Simoun qui est un vent donc violent. Parlez-nous de ce vent.
Le Simoun, le vent, ce vent très chaud du désert qui émane du cœur même du Sahara et qui fut pour une longue période le seul fléau naturel de la région et raflait tout sur son passage. Il semait la soif, il semait la mort, il semait la terreur parce qu'on ne pouvait pas l'éviter, on ne pouvait pas le prévoir, on ne pouvait pas. Son armée, il était le plus fort. Bon, maintenant, il est un peu dompté et avec le modernisme, les gens n'ont plus peur de se déplacer, n'ont plus peur d'affronter le Simoun. Eh bien, je vais utiliser ce titre. Le Simoun, c'est l'explication, c'est le vent chaud du désert.
On peut dire que c'était un vent qui détruisait, comme vous venez de le dire, qui détruisait tout et dont les soufis se sont accommodés. L'agriculture devait prendre un coup à cette époque-là.
Et c'est pour cela que les palmeraies étaient enfouis dans des entonnoirs, dans des cratères. Et s'il était en surface de sable, c'est sûr qu'il ne résisterait pas. D'ailleurs, toute la culture potagère et la culture vivrière n'arrive pas à résister. Et heureusement qu'il ne dure pas. C'est sûrement pratiquement au mois de mai et juin. Et puis ensuite, les vents s'affaiblissent et il n'y a que juste la chaleur, uniquement la chaleur solaire. Quant au Simoun, c'est juin, juillet, mai et juin seulement.
Alors, votre roman, dont vous avez donné le titre Simoun, qui est ce vent violent, vous le situez dans les années 50. Vous avez écrit donc une histoire humaine de deux êtres qui appartenaient à deux communautés et dont la vie a tout fait pour les séparer. Pourquoi avoir choisi ces deux personnages?
La nature déjà les a unis parce qu'ils se sont retrouvés dans le même milieu, dans le même décor, le souffle, et exactement dans la capitale du souffle, la ville d'El Oued, et plus précisément le lieu où se déroule un peu les événements du roman, dans l'hôpital, l'ancien hôpital. C'était le nouveau hôpital civil de la ville d'El Oued qui était inauguré dans les années, fin des années 50. Et c'est là où il y a eu la rencontre de ces deux personnes, une Française et un Algérien, un soufi.
À cette époque-là, c'est les années 50, peut-on parler de ce tissu social qu'il y avait, ces communautés. Pendant la colonisation, il y avait donc l'armée, et vous avez fait le distinguo entre la société civile qui... il y avait des situations où ces deux sociétés, la civile, se rapprochaient, enfin ils étaient...
C'est voulu, c'est justement pour ne pas dénoncer tous les Français qui étaient parmi nous, qui étaient ici chez nous, les militaires, les ultras, les colonialistes, les autres, ceux qui sont venus et pour nous dans le souffle apporter le savoir, la culture et peut-être l'éducation, parfois aussi. Ceux-là, on les respecte, on les côtoie. Une amitié s'est tissée entre la communauté algérienne, la communauté soufie et cette frange de Français qui sont venus uniquement pour dispenser le savoir, dispenser l'éducation et l'instruction. Et parfois aussi dans le domaine de médical.
Vous parlez de cette frange humaniste?
Oui. Des gens qui ont côtoyé les soufis, sont des gens qui les aimaient, une amitié était tissée entre eux. C'est des gens, j'ai dit, humanistes, des gens qui portaient des valeurs humaines et auxquels on voulait donner leur mérite, auxquels on voulait...
Dernièrement, à Gmar, justement, il y a eu une manifestation d'anciens enseignants. Vous avez honoré une école, 100 ans d'enseignement à Gmar.
Oui, tout récemment, au mois de novembre 2007, l'école de Guémar, l'ancienne école primaire, la première qui a été construite à Guémar, et elle est peut-être la troisième qui est construite dans le Souffle, après celle de Kouinine et d'El Oued, Celle de Guémar a été construite en 1907. Donc, en novembre 2007, le centenaire a été inauguré, a été célébré. Et des Français, des anciens instituteurs ont été conviés, ont été invités. Et malgré leur âge, malgré les difficultés, malgré l'état de santé, ils se sont déplacés. Et ils sont venus assister à la cérémonie, au centenaire de l'école de Guémar. Et puis c'était les retrouvailles des anciens élèves avec leurs anciens instituteurs.
Alors, monsieur Ali Abid, on revient à votre roman, le Simoun, ce sont les années 50, il y avait la lutte de libération nationale, cette frange d'Européens, de Français qui ont pris cause pour la lutte de libération nationale, dont était l'héroïne Corinne. Pourquoi vous les avez séparés?
Eh bien, c'est la nature humaine. Et bien sûr, Corinne, c'était un peu pour nous incarner un peu la communauté française. L'héros, le jeune de la région, incarnait la communauté algérienne, la communauté locale. Et il faut faire des approches. Bon, ils voulaient cette approche, tous les deux. Mais simplement, d'autres gens n'en voulaient pas. Et c'est ces gens-là, c'est le sujet lui-même de ces gens qui ne voulaient pas du rapprochement des peuples, le rapprochement des civilisations, le rapprochement des... Et c'est la question de l'heure actuelle. يا نور ادمع العوطة من شايف حرومي وحيوطة قالوا لي استلعام حطوطة مدري وفا يا رينا وحديد البلقلتة قد ربي رادة وعقلوني في سوق الوادة وعدت العب.
Les ritanes, singulier roux, sont des palmiers spécifiques à la région du Souf. Ces palmeraies en forme d'entonnoir, disséminées dans le grand air oriental, sont originales dans le monde. Ici, dans le Souf, le palmier vit à l'image de l'homme, dans une espèce de lutte permanente pour la survie. C'est un arbre qui a les pieds dans l'eau et la tête au soleil. L'économie de la région est basée sur la faune-oliculture, dont une grande partie localisée dans les routes, qui avoisine le nombre de 10 000. La faune saharienne est spécifique au nombre saharien, est à l'image du milieu très fragile, nécessitant une protection, une réhabilitation. Nous pouvons citer plusieurs espèces qui sont protégées par les lois algériennes. Gazelle, fennec, chat sauvage, vipère à cornes, renard du désert, outarde, chacal, hyène tachetée, qui est en voie de disparition comme il existe une variété et une multitude d'oiseaux et d'insectes. Pollution de la nappe phréatique, dépérissement de la palmeraie, détérioration du tissu urbain traditionnel, impact négatif sur l'environnement et le cadre de vie. Pour la compréhension et la maîtrise de ce phénomène, une étude de grande envergure a été lancée. On écoute M. Houali Salah, conservateur des forêts. On parle de forêt ici à El Oued, c'est presque un anachronisme. Et pourtant, le souci de planter des arbres ici existe depuis maintenant 7 ans.
Absolument. Merci madame. Ça fait 7 ans qu'on a introduit l'espèce eucalyptus dans la wilaya d'El Oued. Donc comme espèce principale, à savoir pour la lutte contre la remontée des eaux et en même temps pour donc faire des bandes autour des villes et des communes, à peu près pour lutter contre la désertification et améliorer les conditions de vie de la population donc, qui vit dans ces régions-là. Donc cette espèce convient très très bien et donc je pense que vous avez visité depuis 2 jours ou 3 jours les sites plantés par la conservation des forêts. Donc je pense qu'on a un résultat très positif malgré les problèmes rencontrés à chaque fois donc sur le terrain, à savoir la salinité des eaux, à savoir la nature du sol, à savoir beaucoup de problèmes donc rencontrés, mais n'empêche que la direction des forêts ou bien la conservation des forêts n'a ménagé aucun effort pour réaliser ces programmes. Donc actuellement, Nous sommes à peu près à 204 km, donc à travers 18 communes qui est plantées. Donc c'est des plantations d'alignement toujours en eucalyptus. Et on a changé aussi de politique, ça fait 2 ou 3 ans, ça fait une année à peu près. Donc de faire des aires de repos au niveau des, le long des routes, la RN3, la RN16, la RN48. On a choisi donc des impacts bien déterminés, bien étudiés, en commun accord avec les autorités locales, donc pour permettre aux passagers, aux citoyens, de se faire reposer donc dans des conditions bien comme il faut, agréables.
Alors, monsieur Lawari, je rappelle que vous êtes le conservateur donc, des forêts ici dans la wilaya d'El Oued. On va bien expliquer pourquoi l'eucalyptus, qui est un arbre qui pousse à une vitesse assez accélérée, il sert à quoi, c'est-à-dire il...
Absolument, madame. Donc, on a choisi l'espèce eucalyptus, premièrement parce qu'on pense que l'eucalyptus est une pompe biologique de l'eau. Donc, actuellement, à El Oued, nous avons 3 nappes. Donc, la première nappe, il est à 20 mètres. La deuxième, à peu près, est à 60 mètres et au-delà. Et la quatrième et la troisième nappe, il est à, donc, les plus profondes. Donc,
il pomperait combien de litres d'eau par jour, un eucalyptus?
Un eucalyptus, il peut arriver jusqu'à 200 litres par jour. Donc, facilement. Donc, mais c'est, les gens pensent que l'eucalyptus, il pompe beaucoup d'eau, non? Parce qu'actuellement, on utilise uniquement la première nappe qui se trouve à peu près à 20 mètres, à 28 mètres. Donc, c'est depuis amélioré. Et on utilise l'eau, premièrement, pour diminuer la remontée des eaux, et deuxièmement, pour remettre les villes et les villages agréables pour les citoyens.
On peut dire, monsieur Lawari, que cette introduction de cet arbre, le problème de la remontée des eaux est plus ou moins réglé?
Je dirais plus ou moins réglé parce que nous avons aussi le secteur hydraulique qui est en train de faire des réalisations immenses. Donc, je vous donne un chiffre, à peu près, c'est 700 km de tuyauterie qui vont être posés. Donc, le problème de la remontée sera réglé en partie donc, d'ici la fin 2008. Donc, nous avons un réseau d'assainissement qui est en train de se faire. Donc, aussi la remontée des eaux, qui, c'est un projet très important, donc qui est autour de 2000 milliards à peu près à la wilaya d'El Oued. Donc, c'est immense, c'est important. Donc, nous, en qualité de forestier, on contribue en partie de ce phénomène, de ce problème. Et aussi parce que les interventions des forestiers au niveau de la wilaya, parce que la wilaya d'El Oued, elle se trouve au Grand Erg oriental et sera une superficie de 4 458 000 hectares. Donc, nous avons aussi un parcours à protéger. Donc, il faut penser à ça. Et un parcours qui s'étend sur une superficie de 1 444 000. Nous avons un cheptel Kamla qui est de 27 000. Nous avons des ovins qui est de l'ordre de 49 000. Des caprins de 44 000 et quelques. Tout ça, il faut faire des efforts, à savoir, il faut protéger les parcours, donc contre l'ensablement, contre et le mettre en défense. Il faut savoir aussi que la direction des forêts a mis beaucoup d'efforts pour la protection des exploitations agricoles, pour la protection des infrastructures routières, à savoir la protection par la fixation des dunes, par la plantation d'alignements, par la plantation d'oliviers, qui est une espèce aussi récente à la wilaya d'El Oued. Et en une année, on a planté à peu près presque 200 000. Et ces 200 000, ils vont directement au fellah, parce que les fellah aussi, on considère que le fellah participe premièrement à la lutte contre la désertification par ces plantations. Et deuxièmement, on fait améliorer les conditions de vie de la population indienne, à savoir les rentrées en plus en matière d'olivier.
Vous, en tant que conservateur, vous nous racontez tout cela. Est-ce que l'homme adhère? Justement, l'eucalyptus est un phénomène nouveau. Je parle du soufi. Il y a l'olivier qui est un phénomène nouveau. Est-ce qu'il, lui, il adhère à toute cette nouvelle démarche?
Sincèrement, madame, adhère, je dirais oui, je dirais non, parce que toute espèce nouvelle, donc il est un peu, voilà, des inquiétudes auprès des citoyens, auprès des fellahs. Mais quand même, nous sommes arrivés à le convaincre par des émissions, voilà, un travail de proximité au niveau des communes, avec les fellahs, des journées de sensibilisation à travers la radio, à travers la presse, à travers des rencontres, à travers aussi, sincèrement, on a saisi aussi, comme j'avais dit tout à l'heure, la direction des affaires religieuses pour les imams, pour faire des prêches. Dans ce sens. Et je pense qu'actuellement, à un certain moment où les citoyens ne donnent pas aussi d'importance à cette espèce, à ces plantations, mais actuellement, prend conscience, il parle, il écrit, il informe, et ça c'est nouveau. Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie.
On peut dire, M. Hawali Salah, c'est aussi contre la désertification.
Oui, absolument, c'est notre mission principale, plus particulièrement au sud. Donc, comme vous le savez, la wilaya de l'Ouad, comme j'avais dit tout à l'heure, se trouve sur le Grand Erg oriental. Donc, c'est notre mission essentielle de quand même faire quelque chose dans le cadre de la lutte contre la désertification. Et comme vous le savez, madame, donc, le 1/5 du monde est touché par la désertification parce qu'il y a la pauvreté, il y a la surexploitation des espaces, il y a à cet effet. Donc il y a un programme donc, vraiment important, je dirais. Il est destiné d'abord pour la protection de ce sol, flore et faune.
Flore et faune, c'est aussi votre souci. Il y a des oiseaux migrateurs, c'est votre aussi votre inquiétude, en même temps votre démarche de contrôler.
Oui, donc absolument. Donc nous avons des zones humides classées donc dans le site à Ramsar. On a deux brigades de contrôle donc installées depuis que la grippe aviaire est apparue. Donc ces deux groupes travaillent en collaboration avec les services de la DSA, les vétérinaires de la DSA, donc la direction du service agricole, en matière de capture et de prélèvement du sang. Pour éventuellement, voilà, parer contre toute maladie. Et dans ce sens, donc on travaille en collaboration avec ces vétérinaires, donc on fait des tournées, on capte des oiseaux, on fait le prélèvement, et le prélèvement ça sera destiné auprès des laboratoires qui se trouvent à Constantine, donc pour les analyses, et éventuellement s'il y a des maladies ou s'il y a quelque chose, donc ils nous informent sur la suite à donner sur cette affaire.
Pour terminer avec toutes ces introductions d'arbres et à l'alpha aussi, j'ai vu que vous avez planté de l'alpha. Est-ce que on a l'impression qu'Elouette va retrouver ses origines d'antan, c'est-à-dire à la période néolithique où il y avait une végétation et beaucoup d'eau, hein?
Ouais. Non, l'alpha c'est le milieu naturel, c'est pas la plantation des forestiers, mais actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les forestiers dressent des barrages au niveau des zones vraiment touchées par l'exploitation de l'alpha. Parce qu'il y a une exploitation farouche et anarchique de la population, parce que la population trouve que c'est des pauvres, c'est des... et on est contre ce procédé, parce que ces populations contribuent directement à la désertification. Donc les forestiers mettent des barrages au niveau avec les services de sécurité.
Des zones de
pacage? Oui, c'est des zones de pacage. Les gens pénètrent, donc, comme j'avais dit tout à l'heure, parce que nous avons une superficie de 1 444 000, quand même c'est important. Nous avons un cheptel très important, plus particulièrement le long de la bande frontalière qui s'étend sur une distance de 264 km, qui est 50% de la superficie de la wilaya. Donc, oui, c'est une zone pastorale, là où on a les camelins, les caprins, les ovins, les bovins. Donc, nous, en tant que forestiers, donc, nous avons des brigades de contrôle de la police forestière, donc, qui font leur travail. Et actuellement, donc, sincèrement, on fait beaucoup de choses pour sauvegarder ce patrimoine. et la mise en défense pour l'installation d'une végétation, pour permettre l'installation de la végétation, d'abord comme l'alpha et autres espèces, parce qu'il n'y a pas l'alpha, uniquement l'alpha, il y a beaucoup d'espèces. On est en train de recenser aussi les espèces, donc à travers la wilaya, pour nous faire une banque de données, et ça servira à plus tard à des études avec les étudiants, avec les chercheurs, si on peut développer, on peut préserver ou protéger cet espace.
كم لابس زين يلمس مية يا بني تلعرجون الربي لا لا
ردي عليا يا بني تلعرجون ردي عليا يا بني تلعرجون ردي عليا
Oh.
حوم يا مريم وما بيروم القتيلة كان خاطر مش هنشي بالرضي وكان غضبان غضبان نايا نقيلة يا وادي روم
يا ليا يا بليت ننسالكم دين إن طلبوا العين عطالي إن جيم معكم سنة والله اثنين وفي الثالث يخلص سوان آلي يا وادي روح تشمت العديان تحكوا بصراره هالطفل المسكين ماشي ضحيه